Alors bonjour à tous, à toutes. Je l'ai déjà dit au début, donc je me répète. Bon. Mon intention, c'est de vous donner quelques points de repère ce matin à propos de ce qu'on appelle des commentaires bibliques, peut-être des outils que vous utilisez peu ou pas du tout si on pense à des commentaires écrits, mais peut-être davantage si on pense à des commentaires oraux comme la prédication. Je ne sais pas comment il fait exactement. Mais... Et pour ce faire, je voudrais repartir du texte de Jacques et de la façon dont Søren Kierkegaard commentait le texte. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique... Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. C'est la quatrième fois que je reprends ce texte. Je rappelle que, méditant ce texte pour son époque, Kierkegaard nous disait, voir dans le protestantisme d'alors, que la plupart des chrétiens ne lisent pas la parole. Et que les rares qui la lisent, pasteurs, théologiens surtout, en fait, ils la lisent pas vraiment. Tant ils sont occupés à la consultation de commentaires, et ici des commentaires écrits. Et leur consultation des commentaires fait écran entre eux et la parole. Alors j'ai déjà commenté le commentaire de Kierkegaard, je n'y reviens pas. Je réfère, je crois, quatre remarques, pas toutes de la même longueur. La première, c'est que Kierkegaard illustre très bien, je crois, c'est pour ça que je repars de lui, cette espèce de réserve, de crainte, cette défiance même parfois, qu'ont beaucoup aujourd'hui à l'égard des commentaires. Oraux peut-être moins, mais écrits très souvent, il me semble. Parce que les commentaires peuvent se superposer au texte, ils peuvent facilement en prendre la place. Et d'autres ajouteraient, ou les mêmes ajouteraient, pas seulement ça, mais ils peuvent même contaminer la lecture de la Bible. Alors Kierkegaard, en fait, fait un prolongement du texte de Jacques qui parle quand même d'autre chose, je l'ai déjà dit, mais je crois qu'il décrit très bien un des risques auxquels, en tout cas, moi personnellement, je suis exposé, et vous le savez si vous êtes rentré dans mon bureau, si vous arrivez encore à rentrer, puisqu'il y a des livres partout, notamment des commentaires bibliques, et il est même très difficile de s'asseoir, je sais. Et dans l'appartement aussi, mais il y a encore davantage de place pour s'asseoir dans l'appartement, pour le moment, dans la cuisine en tout cas, la salle de bain. Donc j'entends très bien ça, et j'ai envie de dire que ceux qui ont un profil du même ordre que le mien, et que ceux qui ont ce profil et qui ont des oreilles pour entendre, entendent la mise en garde de Kierkegaard. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ceci étant dit, il faut prendre conscience quand même. Donc, je ne veux pas l'annuler, je vais y aller crescendo en disant le rejet jusqu'à une position beaucoup plus ouverte, mais je ne veux pas annuler ce qui est dit là. Il faut prendre tout ensemble. Il faut prendre conscience aussi quand même que Kierkegaard, lorsqu'il nous dit cela, fait quelque chose de paradoxal à mes yeux. Car il nous dit cela tout en commentant lui-même la Bible et en la commentant par écrit. Donc, il commente, je redis la même chose, il commente la lettre de Jacques et il nous adresse une invitation. Méfiez-vous de la place que peuvent prendre des commentaires dans votre lecture de la Bible. Je résume, donc il commente en nous disant méfiez-vous des commentaires. Un peu paradoxal. Et aujourd'hui, ceux qui iraient plus loin que Kierkegaard, hein, qui pousseraient jusqu'à dire, mais ne, parce que je l'ai entendu, hein, ne lisez que la Bible seule, uniquement la Bible. N'écoutez que la Bible. Enfin, ne la lisez que seule. Et ça peut être très populaire. Ne voit pas toujours qu'en disant cela, ils nous invitent aussi à écouter leurs discours, leurs commentaires. Je ne vais pas m'y attarder, mais je pourrais le faire. Notez au passage qu'on pourrait leur poser la question, mais où est-ce que dans la Bible, on nous dit de lire que la Bible seule? J'y vais pas plus loin, mais je pense que ça paraît suffisant. Mais quoi qu'il en soit, donc celui qui nous dit n'écoutez que la Bible seule, nous dit aussi, écoutez-moi. Je regrette, c'est ce qui se passe aussi. Et puis ce moment même l'illustre. Si quelqu'un parmi nous voulait tenir un tel discours, j'aurais envie de lui demander, mais qu'est-ce que vous faites ici? Parce que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train d'écouter une prédication, voilà, qui n'est rien d'autre a priori, qui se veut un commentaire de l'Écriture. Donc on s'expose à écouter autre chose. Mais je vais même pousser le bouchon, parce que dans le réel, je ne sais pas pour vous, mais qui n'est attentif qu'à la Bible? Qui n'écoute parmi nous, qui n'écoute que la Bible seule? Je vais le dire autrement, qui est-ce qui n'écoute jamais les informations? Qui est-ce qui ne lit jamais les journaux? Même si c'est juste les journaux sportifs, mais vous voyez, c'est déjà assez théologique, hein, dans l'image qui est là. Qui, tout simplement, dans sa vie quotidienne, n'écoute jamais les autres? Et à celui qui dirait « ben, je n'écoute ou je ne lis jamais de commentaires bibliques de peur d'être contaminé », on pourrait répondre « et le reste alors ? » Est-ce que ça ne contamine pas ? Est-ce que ça ne nous expose pas à une contamination ? Alors, ce qu'il faut dire, je crois, de manière plus posée, c'est que c'est la Bible qui fait autorité pour le chrétien, qui doit faire autorité pour lui, et qui est à un rang unique. Mais cet essentiel étant dit, la Bible, eh bien, nous y accédons aussi avec toutes les paroles humaines que nous entendons et qui nous forment. Et même la Bible, nous y accédons, nous y rapportons souvent fort de portée par des paroles humaines, avec un accompagnement de paroles humaines. Bon, typiquement, notre situation présente, c'est ça. Et nous y consentons. Donc la Bible, statut unique, le statut de l'importance de la parole qui accompagne, alors c'est pas la même, le prédicateur par exemple, l'auteur du feuillet de calendrier qui commente la Bible, il faut bien se souvenir, garder à lettre, que ça n'a pas la même autorité que la Bible, même si c'est écrit sur du papier. Et parfois, juste le fait que ce soit écrit, ça nous impressionne. C'est écrit, donc c'est bien. Ça n'a pas la même autorité que la Bible. Mais dans les faits, l'un et l'autre vont ensemble. Et il ne faut pas se leurrer et nous faire des idées en disant qu'on n'aurait que la Bible seule. Ben non, je ne connais personne qui fonctionne comme ça, en fait. Enfin, je me trompe peut-être, mais voilà. Donc, c'est la deuxième chose. Première chose, être attentif à la mise en garde de Kierkegaard, ne pas interposer entre soi et la Bible d'autres choses, et en même temps, mais la Bible vient aussi avec des commentaires, et nous nous y prêtons volontiers, plus ou moins consciemment. Troisième étape, plus que ça, j'aurais envie de plaider que les commentaires de la Bible nous sont nécessaires. Alors oui, ils n'ont pas la même valeur que la Bible. Oui, ils ne devront pas se superposer à elle. Et en même temps, s'en priver, c'est se priver d'éléments qui nous sont parfois utiles, qui pourraient nous être utiles, en tout cas, pour entendre la Bible. Et je l'illustre tout simplement à partir de ce passage de la lettre de Jacques. Il y a au moins deux éléments qui permettent de l'illustrer. Le premier élément, nous lisons, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. Et peut-être, je ne sais pas comment ça se passe pour vous dans votre tête, j'ai vu ce qui s'est passé dans la mienne, donc voilà. Peut-être sans nous en rendre compte, nous nous disons, mais si quelqu'un écoute la Bible, à savoir de la Genèse à l'Apocalypse, et ne la met pas en pratique. Sauf que, quand Jacques écrit, la lettre de Jacques, elle est par là, hein, c'était probablement pas à la Bible telle que nous y pensons spontanément qu'il avait en tête. La lettre de Jacques qui est dans nos Bibles, elle n'était pas dans la Bible à cette époque-là. Donc quand Jacques écrit la parole, question, il a quoi en tête? Je ne vais pas répondre, je laisserai y réfléchir. Mais mon intention en disant ça, c'est d'illustrer le fait qu'en lisant la Bible, en lisant ce passage de la Bible ou d'autres, ce que je crois voir dedans, eh bien, c'est peut-être pas exactement ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que par le passé, je disais qu'est-ce que le texte veut dire dans le contexte, et après on le rapporte à notre époque, comment on le reçoit aujourd'hui, c'est pas forcément exactement identique. Donc autrement dit, je peux me tromper simplement, c'est tout bête, hein, sans m'en rendre compte. Et probablement, tant que je suis tout seul dans mon coin, tant que je suis avec moi-même, il y a des chances que je ne m'en rende pas compte. Parce que j'aurai que moi comme vis-à-vis, et comme quand vous allez sur Internet, vous trouvez tout le temps des choses qui vont dans votre sens, parce que le navigateur a appris des choses que vous allez visiter, donc il vous propose ses résultats, et vous avez peut-être l'impression que tout le monde pense comme vous, mais en fait non, c'est tout, parce que vous êtes allé sur tel site qui se ressemble, et bien on vous en propose d'autres. On peut avoir l'impression, quand on est avec soi-même, de voir tout ce qu'il y a à voir. Eh bien, parfois, on ne se rend pas compte. J'aurais fait un choix. J'aurais posé une interprétation sans avoir eu conscience que je l'ai fait. Et je ne me rends pas compte que ce que je pense comprendre, je ne me rends pas compte que je pense comprendre, alors qu'en fait, j'ai peut-être pas compris exactement ce que le texte nous disait. Celui qui écoute la parole, dans la lettre de Jacques, cette parole, c'est pas la Bible telle que nous l'avons en tête. Donc je peux me tromper, sans m'en rendre compte. Et puis deuxième aspect, en fait, il y a des fois où on se rend bien compte qu'on comprend pas. Tant mieux. Et donc là, c'est des moments où on peut se dire, ben, j'ai besoin d'aide pour comprendre la Bible. Et ici, en fait, je voudrais revenir à un aspect du texte, si la diapo veut bien. Cette image que Jacques emploie, il nous dit que la personne qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui regarde dans un miroir son visage naturel, et je vais m'intéresser à la fin, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais en reprenant ces textes, je me suis dit, mais comment c'est possible ? Comment cette situation qu'on nous décrit ici, il oublie aussitôt comment il était, comment c'est possible? Comment est-ce que, en tout cas je parle là pour moi, comment est-ce que quand je regarde mon visage dans le miroir, je me reconnais? Et dans le cours de la journée, j'ai pas oublié à quoi je ressemble. Qui parmi nous oublie son visage une fois qu'il s'est regardé dans la glace? J'ai l'impression que Jacques décrit ici quelque chose qui ne correspond pas du tout à mon expérience. Parce que je me croise au moins une fois par jour dans le miroir, à la salle de bain, et je sais à quoi je ressemble. Et je ne vois pas vraiment comment je pourrais oublier. Alors, je mentionne une exception, une parenthèse, à moins de devenir aveugle. Peut-être. Et en fait, c'est tout à fait sérieux. Je pense à un documentaire que j'ai trouvé très, très touchant, Notes on Blindness, pardonnez-moi mon anglais, qui était consacré, en fait c'est un théologien, mais ça aurait pu ne pas être un théologien, mais c'est un théologien qui est devenu aveugle. Et parmi les choses qu'il décrit dans son expérience d'un aveuglement qui est continué, qu'il découvrait avec tristesse qu'avec le temps, les semaines, les années qui passaient, il ne se souvenait même plus du visage de sa femme. Il pouvait le toucher, mais il n'en avait plus l'image. Avant, il le voyait à longueur de journée, il ne se posait pas la question. Et il n'en parle pas, mais je me demande s'il se souvenait de son image à lui. Je referme la parenthèse. Ce que raconte ici Jacques ne correspond pas vraiment à mon expérience. Le texte n'a pas vraiment de sens pour moi. Et j'ai envie de dire, j'ai besoin d'aide. Et en tout cas, j'ai été très aidé par un commentateur de Jacques qui dit tout simplement, mais qu'à notre époque, évidemment, avec l'image du miroir dans la salle de bain, ou l'époque des selfies, on en a eu même un en première partie de culte, évidemment, ça pose question, qui oublierait son visage? Mais à l'époque de Jacques, les miroirs, quand il y en a, eh bien c'est d'abord... Je sais pas, j'en suis dans mes diapos. Mais c'est chez les riches qu'on les trouve, ce qui n'est pas le cas de toute la population. Et la plupart des personnes n'ont vraisemblablement pas une grande idée de ce à quoi ils ressemblent. Ils voient rarement des miroirs, donc les riches les voient peut-être plus souvent, mais quand ils voient leurs reflets, ce sont des miroirs en bronze, eh bien ils ont plus vraisemblablement beaucoup plus de facilité à oublier leur reflet que à quoi ils ressemblent que nous n'en avons. Et donc, sans une telle information, très important par rapport au sens du texte, bien sûr, mais je constate que je ne comprends pas une partie du texte. Et je voudrais lister juste quelques-unes des raisons qui font ou bien qu'on risque de mal comprendre sans s'en rendre compte, ou bien qu'on se rende compte qu'on ne comprend pas. La première, c'est simplement que la Bible vient d'un autre temps. Voilà à quoi ressemble un manuscrit du Nouveau Testament. Vous connaissez les Bibles contemporaines. La Bible vient d'un autre temps, d'une autre culture. Elle fait allusion à des choses, simplement à des coutumes que nous ne connaissons pas, pas forcément, et que le texte n'explique pas, parce que ça allait de soi à l'époque. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un selfie. Par contre, si l'apôtre Paul est entré dans la salle et qu'il parlait français ou que je parle grec, c'est ni le cas ni l'un pour ni de l'autre. Voilà, il comprendra rien. De toute façon, il comprendra rien à ce que je dis. Donc, même le mot selfie. Que veut dire, par exemple, je prends une illustration très simple parce que c'est un texte qui nous est peut-être familier de la plupart, mais que veut dire ce passage du psaume 23 qu'on pourrait sans doute citer par cœur ? Tu prépares une table devant mes adversaires. On dit ça comme un automatisme. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on leur prépare un repas? Vous êtes mon adversaire, mais je vous invite à manger. Est-ce que ça veut dire que Dieu met la table entre moi et l'adversaire pour qu'il ne puisse pas me cogner facilement? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire autre chose? Ou bien cet exemple du miroir. Voilà, deux exemples. Nous avons besoin de quelques explications. Et des explications qui n'étaient pas nécessaires à l'époque. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les textes bibliques ont été écrits dans des langues étrangères, et qui plus est, ce sont des langues donc, qui aujourd'hui ne sont pas connues de la plupart des lecteurs de la Bible. Et heureusement, il ne faut pas les apprendre. Mais il faut le dire aussi, et je le dis au passage, mais c'est pas une blague, qu'elles sont peu connues aussi de la plupart des traducteurs eux-mêmes. Excusez-moi, mais si vous avez fait 4 ans de fac de théologie à Vaux-sur-Seine, vous avez appris le grec, mais vous n'avez pas un niveau de grec qui est suffisant, je regrette. Parce que j'ai vu des personnes qui ont une formation en lettres classiques et je vois ce qu'elles sont capables de faire. Donc, non. Alors, tout ça pour dire que des annotations sont nécessaires, ne serait-ce que pour dire, là j'ai traduit comme ça, mais on pourrait peut-être traduire comme ça. Alors j'ai jamais lu cette annotation, mais je serais sans doute heureux le jour où je la lirai, parce qu'il me semble que parfois il faudrait la mettre. Là, peut-être le traducteur pourrait nous mettre en note. Là, je suis pas sûr d'avoir compris. Je sais pas bien comment traduire. Et en fait, alors ça, bon, c'est le problème des traducteurs, c'est pas le vôtre, c'est pas le vôtre. Voilà, bref. J'ai le vôtre parce que j'ai plus de familiarité quand même avec le grec. Mais bon, les traductions, surtout quand elles sont littérales, nous laissent parfois devant des choses, mais on ne comprend absolument rien. Alors je prends un exemple que vous connaissez peut-être pas par contre, mais c'est le psaume 138:2 dans la version Darby, qui nous dit « Je célébrerai ton nom ». Bon, jusque là ça va. Alors, mais c'est la fin. « Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom ». Alors bon courage pour comprendre. reportez-vous à d'autres traductions, ce sera plus clair. Et puis parfois aussi, mais tout simplement, quand on n'a pas ces informations, ben, on constate que le texte peut avoir été compris différemment, et parfois sur des choses très 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 simples. L'amour de Dieu, c'est quoi ? Ça peut être deux choses. Ça peut être l'amour que j'ai pour Dieu. Ça peut être l'amour que Dieu a pour nous. Et on s'en rend compte parfois juste là, l'intérêt c'est de comparer plusieurs traductions et parfois on a deux choses, hein, qui tiens, il y a une différence. Et c'est là utile d'avoir quelqu'un qui peut nous dire, oui, si on a traduit différemment, c'est parce que, pour telle ou telle raison. Bref, qu'on ajoute un commentaire. Donc au moins trois raisons de malentendu. Et je voudrais juste dire que c'est, en fait, c'est pas très, très étonnant, hein, je veux dire. Parce que ça arrive même entre personnes qui parlent la même langue. Ça m'arrive pas tous les jours, j'en sais rien, mais je crois très souvent que ma femme a compris ce que je voulais lui dire. Ma femme croit avoir compris ce que je voulais lui dire. Elle est pas là, donc c'est bien. Mais nous savons, elle et moi, que nous ne nous comprenons pas toujours, loin de là. Et pourtant, nous avons la même langue, nous avons la même culture, nous avons des automatismes à cause de ce commun entre nous, de langue, de culture et de vie ensemble. Nous avons une expérience de l'un de l'autre qui nous font aller beaucoup plus vite que si nous parlions deux langues différentes. Mais voilà, il y a des malentendus. Et puis si je vous dis ce matin, lol. J'emprunte à la culture commune, et plusieurs ont compris tout de suite, mais plusieurs ne comprendront vraisemblablement absolument pas. Ils se demanderont même si j'ai bien prononcé. Il a dit lol, mais non, il n'a pas pu dire lol, ça veut rien dire. Les malentendus, ça existe, et c'est très courant. Donc écouter, lire des commentaires peut nous aider quand nous ne comprenons pas, ou bien quand nous pensons avoir compris. Et je crois que rien que cela, si la Bible compte pour nous, devrait nous encourager et à lire la Bible et en même temps à prendre toute l'aide qui peut nous être utile pour la lire, pour accompagner notre lecture. Troisième chose, l'aide est importante, nécessaire, je ne sais plus quel mot j'ai employé, je ne trouve plus où j'ai commencé le paragraphe. Bon, bref, vous avez compris, j'espère. Enfin, j'espère que vous avez compris, les malentendus, mais sinon ça existe. Dernière chose, je voudrais nous inviter à nous en servir, d'autant plus que la Bible elle-même, et là je suis plus du côté de l'impératif, loin de nous inviter à ne lire que la Bible elle-même nous invite à nous parle de ministère, nous parle de personnes qui sont au service de l'explication de la Bible. Alors, je parcours l'ensemble de la Bible, mais elle en témoigne dans l'Ancien Testament. Alors, il y a plusieurs éléments. Je pense au passage de Néhémie, où le peuple est revenu à Jérusalem et on lit la loi. La loi, c'est-à-dire la Bible de l'époque. Et les responsables, donc, on lit la loi. Je pense que j'ai des textes sur la lecture. Et des responsables religieux, que sont Esdras, les Lévites. Alors, on a même toute une liste de noms de ceux qui lisaient. Donc, ils lisent la loi et ils l'expliquent. Pardon, j'ai pas le bon. Ils l'expliquent au fur et à mesure. Néhémie 8. Alors on pourrait dire que c'est l'Ancien Testament, mais je garde ça en tête. Elle en témoigne aussi dans le ministère de Jésus. Je pense au chemin d'Emmaüs. Donc voilà, Jésus a été crucifié. Il y a deux disciples qui rentrent, ils sont découragés. Et puis un inconnu se joint à eux et ils se mettent à ouvrir la Bible virtuellement ensemble, ils parlent de la Bible et Jésus explique. Donc ajoute à la Bible, à cette Bible qui leur était familière, ajoute des commentaires pour expliquer ces textes. Et cette Bible, ils en étaient familiers, mais sans l'explication de Jésus, bien simplement ils ne comprenaient pas ce dont elle parlait. C'est un commentaire qui leur donne accès à ce sens. Alors évidemment, c'est le commentaire de Jésus. On n'est pas dans le même cas de figure. Mais la suite du Nouveau Testament, c'est le dernier élément, parle à plusieurs reprises. Alors, dans la lettre aux Corinthiens, par exemple, de ceux qui sont, donc, premièrement des apôtres, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Donc, de toute façon, l'apôtre et le prophète, il est bien en train de dire des choses qui sont extra-bibliques, déjà, mais l'enseignant aussi. Et on le retrouve à d'autres reprises dans la liste des ministères en Éphésiens 4. Je surligne simplement. Voilà, il a donné les uns pour faire... comme prophète, comme évangéliste et d'autres encore, comme pasteur et enseignant. Alors, peut-être par pasteur, il ne faut peut-être pas tout à fait entendre ce que nous on avait en tête, mais bon, l'idée c'est que il y a des personnes que Dieu dispose, que Jésus distribue dans l'Église pour expliquer ce qui a été transmis. Alors à l'époque c'était vraisemblablement oralement, mais pas que, parce qu'on a des commentaires aussi anciens de la Bible. Je voudrais attirer notre attention sur le fait que je trouve ça d'autant plus intéressant et important de le noter. Et c'est là que je trouve une tension intéressante, que le Nouveau Testament conjugue cette réalité, apparemment sans aucune gêne, sans aucun embarras, avec des formulations qui nous parlent d'une instruction directe de la part de l'Esprit de Dieu. Et je pense simplement à ce texte, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'Ancien Testament en disant « Oui, je sais, on est dans l'Ancien Testament ». Dans l'Ancien Testament, on annonce à un moment une nouvelle alliance qui sera donnée plus tard, donc avec Jésus, où, comme on le lit ici, ils n'auront pas besoin de s'enseigner l'un l'autre. Et ça, ce texte est repris dans la lettre aux Hébreux. Donc, il y a quelque chose de... qui pourrait être lu comme en tension. Ben, si le Saint-Esprit m'enseigne directement, j'ai besoin de rien d'autre. Tout le reste pourrait, ne serait que nul à côté, quoi. Et c'est pas comme ça que le texte biblique nous présente les choses. J'ai l'impression qu'on se dit assez couramment aujourd'hui que puisque l'Esprit est là, ben, on n'a pas besoin d'autre chose, que ce serait même un péché, que ce serait un manque de foi, ou même une espèce de honte, que de consulter un commentaire biblique, ou même de suivre une session de formation. Au mieux, c'est facultatif. Et parfois, au nom du Saint-Esprit, on se dit ou on se croit en mesure d'aboutir à un discernement personnel, tout seul, de grandir, et puis le reste, basta, quoi. Je dirais que pensant cela, que faisant cela, on fait là une opposition que la Bible ne fait pas. Et pour les auteurs bibliques, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais l'un et l'autre ne s'excluent pas. Enfin, je l'ai dit une fois précédente, je crois que précisément que les deux vont ensemble. Je reviens sur le texte de la lettre aux Éphésiens, en attirant notre attention sur le fait que la lettre aux Éphésiens marque même que non seulement ces deux choses qui vont ensemble, mais qu'on ne peut pas s'en passer, que notre croissance chrétienne dépend de cela. C'est en écoutant, en se mettant au profit de ministères comme cela, que nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, que nous grandirons. C'est même pas que nous perdrions à ne pas le faire. Nous ne grandirions peut-être pas si nous ne le faisons pas. Et il peut être étonnant, si c'était notre posture, que c'est au nom du Saint-Esprit qu'on en arrive à négliger ce que la Bible elle-même nous dit être des dons réels du Saint-Esprit, qui nous sont donnés pour notre profit, des dons auxquels elle nous enjoint de faire place, parce que, nous dit-elle, c'est par ces dons aussi que se fait notre croissance. Qui pourrait estimer pouvoir s'en dispenser ? Et même si ça nous arrivait, comment être fier d'une attitude de méfiance ou de réserve? Donc Dieu dispose des ministères, les met en place, invite à se mettre à leur écoute. C'est touchant, Dieu nous donne des ressources pour croître. Et c'est en se mettant à l'écoute de cela que la croissance a lieu ou qu'elle n'a pas lieu. Trois phrases pour terminer. Je vous invite à... Donc je reprends là du coup ce que j'ai visé au départ. Je vous invite à chercher une espèce de vivre dans une polarité entre, d'une part, donner trop de place à des commentaires et, d'autre part, ne pas en donner du tout. C'est entre les deux. et même une polarité entre une instruction directe de l'esprit et puis l'importance des ministères qui sont aussi des ministères donnés par le Saint-Esprit. Je prolongerai une fois prochaine, en revenant dessus, mais en passant à du pratico-pratique. D'accord, les commentaires, mais on fait comment pour en choisir? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui doit être mis à la poubelle? Et qu'est-ce qui doit ne pas l'être? Etc. Donc je vous proposerai un petit peu des choses pratico-pratiques une prochaine fois sur des outils qui existent. Je vous invite à juste un moment de recueillement, de silence.